La parole du jour avec le diacre Emmanuel Faux.
Aujourd'hui, pour notre dernier rendez-vous, nous allons commenter un épisode un peu violent. Et oui, la Bible contient aussi la folie des hommes. Bonjour à tous. On va lire ensemble l'évangile de ce jour. C'est en Saint Marc, au chapitre 6. Pendant que les disciples sont partis en mission, comme on l'a vu hier, Marc propose un intermède sanglant sur Hérode et sa cour. Ça commence par une petite introduction. Qui est cet homme ? Oui, qui est ce Jésus ? Cette question sous-tend tout l'évangile de Marc. Je vous lis en Saint Marc, chapitre 6, versets 14 à 16. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. Qui est cet homme, nous demandions-nous ? Les avis sont partagés. C'est Jean-Baptiste ressuscité. Comme on va le voir, Jean-Baptiste va avoir la tête tranchée. Alors serait-il revenu à la vie ? À l'époque, on croyait à la résurrection. On retrouvait la vie d'avant, mais avec des super-pouvoirs, notamment le pouvoir des miracles. Et les miracles de Jésus ont marqué encore plus que son enseignement. Notons au passage que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Deuxième opinion sur Jésus, c'est Élie, le grand prophète, qui a combattu seul les 400 prophètes de Jézabel. Cela lui vaudra plein de démêlés avec la reine. Il s'en est sorti. Élie, curiosité, n'est pas mort. Il est monté au ciel dans son char de feu. Allez lire ça. C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2. Il reviendra à la fin des temps, et ce sera le signe précurseur de la venue du Messie. J'ai eu la chance de participer à un repas de Pâques, le Seder, invité par une famille juive. À table, il y a un couvert en plus. Il est pour Élie, et la porte reste ouverte. Et avant de commencer à manger, on demande au plus petit, « Va voir si Élie ne revient pas. » Pour Marc, Jean-Baptiste est sans doute le nouvel Élie. Élie, le prophète, sera présent avec Moïse, qui représente la loi, au moment de la transfiguration. La troisième hypothèse sur Jésus, c'est un prophète de jadis. Depuis le retour d'exil, plus de prophètes, et cela manque. Remarquons que dans ces trois réponses possibles rapportées par Marc, Jésus est un prophète, un envoyé de Dieu, venu parler en son nom. Mais en même temps, il intrigue, car il ne se comporte pas comme un prophète, comme on l'attendrait, ni comme un messie. Arrive alors l'explication de la réponse, et là, je vais vous lire la suite, c'est au verset 16. C'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais lui demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande : « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Hérode Antipas, est l'un des fils d'Hérode le Grand. Il règne sur la Galilée. Son demi-frère Philippe règne, lui, sur l'Iturée et la Traconide. C'est au nord de la Galilée. On connaît Césarée de Philippe. Il a épousé sa nièce Hérodiade, dont il a divorcé. Hérodiade séduit alors son oncle Antipas et l'épouse. Elle a donc épousé son tonton et son beau-frère. Ça se fait pas. Alors Jean-Baptiste va le dénoncer, un adultère incestueux. Mais Antipas, même s'il ressent le reproche, aime bien Jean-Baptiste, il l'admire et le protège. Ce n'est pas le cas d'Hérodiade. Elle n'a pas du tout apprécié l'audace de Jean-Baptiste. Elle nourrit pour lui une haine féroce, mais pas facile de l'éliminer puisque son mari, quel faible celui-là, le protège, malgré l'affront de Jean-Baptiste. L'épouse adultère va avoir l'occasion de contourner l'admiration craintive de son royal époux. C'est l'anniversaire d'Hérode, grand dîner de gala au palais. Tous les dignitaires de Galilée sont là. Mets raffinés, vin de choix, musique, danse, le clou du spectacle. La fille d'Hérodiade va danser. Alors là, mes amis, quelle danse du ventre, sensuelle et tout. Je suis sûr que vous avez vu cette scène. Elle est dans tous les films, dans toutes les comédies musicales, dans toutes les BD. Tonnerre d'applaudissements, le roi est subjugué. Magnifique. Demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donne, même la moitié de mon royaume. Richard III, lui, donner tout son royaume pour un cheval, mais c'est une autre histoire, vous demanderez ça à M. Shakespeare. Revenons-en à Hérode. Il a dû se mordre les doigts. Demande-lui la tête de Jean-Baptiste, souffle Hérodiade à sa fille, Salomé. Je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, tout de suite, dit Salomé à son beau-père. Ah, il est bien coincé, le roi, il a promis devant toute la cour. Et autant Jean-Baptiste a été courageux, pour dénoncer l'ignominie, autant Hérode sera lâche et il fera exécuter Jean-Baptiste malgré l'admiration qu'il lui porte. Vous avez sûrement vu une peinture de la belle Salomé portant dans un plateau la tête sanglante de Jean-Baptiste. Cette scène tragique et sanglante a inspiré de très nombreux peintres. Lâcheté d'Hérode à mettre en parallèle avec celle de Pilate qui se lave les mains et laisse condamner un juste. Procès inique, arrestation, prison, exécution, mise au tombeau par les disciples. Bien sûr, les passions de Jean-Baptiste et de Jésus sont racontées en parallèle, comme disaient mes enfants, c'est fait d'exprès. Chers amis, que nous dit ce passage d'Évangile ? Le courage de Jean-Baptiste nous interpelle. Pas de compromission. Il dénonce ce qui est une grave atteinte à la loi et à la morale. Un scandale pour tous. Réalité toujours actuelle qui ne concerne pas que les rois ou les présidents. Pensons à toutes ces déviances contre les enfants, aux violences faites aux femmes, à l'exploitation de l'homme par l'homme. Regardez tous les débats en ce moment autour du père Prénat, du silence de la hiérarchie, du film de Polanski, J'accuse, qui est présenté pour de multiples récompenses au César. Pas facile d'y voir clair. Compromission, délation, silence, secret, pas de vague. Et pourtant, combien de jeunes sont cassés pour la vie à cause de ces silences. Idem pour la préservation de la planète. On a eu la semaine dernière à Luisant une conférence débat très intéressante sur la bioéthique avec le père Coate. Tout ce qui est possible est-il souhaitable, moral, normal ? Voir ou ne pas voir, fermer les yeux, se taire ou dénoncer, il va falloir réfléchir, méditer, partager sur tout cela. Finalement, la vraie question, c'est est-ce que cela fait grandir l'homme ? Je vous laisse sur cette vaste question. Rendez-vous dans 2 mois. Merci de m'avoir écouté. Merci à Simon pour ses enregistrements.